Chapitre 4. La Guilde de l'Ombre. La Guilde du Pouvoir était la pièce maîtresse de l'architecture de la cité, la clé de voûte sans laquelle l'apparente simplicité de la structure se résoudrait bientôt en conflit de forces contradictoires. C'est pourquoi l'édifice de la Guilde occupait la place centrale de la cité. Le bâtiment, aussi luxueux que les autres, mais d'une élégance plus majestueuse et plus sévère, plongeait dans le sous-sol de la cité et s'élevait jusqu'à l'un de ses plus hauts panoramas. C'était là, dans ce dédale de bureaux et d'antichambres, d'archives et de salles de conseil, que ses membres se livraient au gouvernement de la cité. Plus qu'aucune autre, cette guilde offrait une variété d'activités et de talents. Il fallait des juristes pour la réécriture permanente du livre des lois, il fallait des conseillers rompus à toutes les stratégies humaines, des officiers de renseignement, des orateurs, des politiques et des financiers, car la guilde du pouvoir se chargeait non seulement de légiférer, mais également de gérer des budgets colossaux et avait autorité pour arbitrer entre les guildes, pour prendre des décisions d'intérêt général en ville basse et pour assurer la liaison économique et diplomatique avec les autres cités. Officiellement, c'était la guilde de l'ordre qui se chargeait d'exécuter les actions policières et militaires, mais la guilde du pouvoir avait de tout temps joui de deux moyens supplémentaires. La garde pourpre, qui assurait la protection du canal et les services protocolaires, et la guilde de l'ombre. C'est à cette dernière que pensait Joris en ce matin clair et froid. Revêtu de la toge pourpre de sa guilde, ses cheveux noirs impeccablement tressés, il offrait à quiconque voudrait l'observer une apparence parfaite, qui n'était pas dû à sa seule beauté, ni même à sa prestance. Non, il semblait incarner les valeurs de droiture, de détermination et de dévouement propres à sa guilde. Tout en traversant des halls et en montant ou descendant des escaliers, il avait vaguement conscience de l'impression qu'il produisait sur les autres. D'autres toges pourpres s'arrêtaient, murmuraient, le saluaient, mais son pas décidé ne lui laissait pas l'occasion de s'attarder sur leur visage. Eux qui s'étaient gorgés du spectacle humiliant de la trahison de sa propre sœur, eux qui avaient jasé sur l'honneur à jamais entaché de sa noble famille, ils ne méritaient pas le moindre regard. Ils ne recevraient de lui que l'image de sa muette dignité. Le ministre du pouvoir ne l'attendait pas particulièrement, mais sa requête avait quelque chose d'exceptionnel et il le recevrait sans doute sans retard. C'était un acte simple, évident, limpide. Un acte qui dissiperait peut-être la honte profonde qu'il éprouvait. Lorsqu'il se fit annoncer, on le pria, ainsi qu'il s'y attendait, de patienter dans l'antichambre. Le ministre cependant ne tarda pas, il lui fit un accueil courtois. C'était un homme massif, au regard lointain, qu'on ne rencontrait pas souvent, et qui restait autant qu'il le pouvait dans le secret de son bureau. Joris pénétra à sa suite dans ce lieu, pour la première fois, songea-t-il. La pièce était démesurément vaste et haute de plafond, avec un nombre impressionnant de portes d'entrée. Elle était éclairée d'en haut, par les rayons obliques coulant des fenêtres de pierre. La moitié de l'espace était occupée par une splendide maquette de la cité d'Albâtre, et Joris se perdit quelques secondes dans la contemplation des enseignes des échoppes en ville basse et des bas-reliefs prodigieusement reproduits en ville haute. Le ministre se tenait de l'autre côté, devant une des grandes tables de marbre encombrées de documents. Il n'invita pas Joris à s'asseoir et attendait manifestement qu'il prenne la parole. « Monsieur, dit-il, je vous prie d'excuser la manière cavalière avec laquelle j'ai sollicité cet entretien. » Le ministre se tourna vers lui. « Je suppose que la raison doit en être impérieuse. En effet, ma famille et moi-même sommes dans l'affliction depuis la trahison de ma sœur. Je pense que nous sommes tous responsables à différents degrés de l'échec lamentable de sa formation. » Le ministre soupira et se détendit légèrement. « Vous n'avez pas à vous en faire reproche, dit-il. La guilde ne vous en tient pas rigueur. Nous ne sommes pas tous dignes de la haute ville. Il y a toujours eu et il y aura toujours des apostats. » Je ne peux m'empêcher de penser que l'éducation qu'elle a reçue a été trop libérale et que mes parents portent la responsabilité d'avoir échoué à lui inculquer la loyauté à la cité. En tant que frère aîné, je ne peux nier ma propre part de honte, et c'est ce qui me pousse à venir vous trouver. » Le ministre haussa un sourcil, intrigué. Après avoir longuement réfléchi à un engagement plus important dans la guilde, il m'a semblé que seul un engagement radical et sans retour, un don inconditionnel de ma personne et un approfondissement de mon serment de loyauté serait de nature à laver l'honneur de ma famille et à apaiser mon sentiment de contrition. Vous porter volontaire pour des missions ingrates ne ferait que gâcher vos talents, Joris. Nous avons besoin de vous au poste que vous occupez. Je ne suis pas irremplaçable, monsieur. N'est-ce pas là la première leçon d'humilité que je dois à notre guilde? À quel type d'engagement pensez-vous? Je sollicite d'être formé pour la guilde de l'ombre. Le ministre hocha la tête plusieurs fois. C'est une idée intéressante, finit-il par dire. Je vous ferai convoquer dans la journée, afin que vous rencontriez le chancelier et le maître des ombres. Je ne suis pas en mesure de prendre seul cette décision. Merci, monsieur. Le ministre observa le jeune homme d'un œil vide. Le noir vous siera moins que le pourpre, ajouta-t-il en guise de salut. Puis il se remit ostensiblement à lire un document et laissa Joris sortir seul. Quelques heures plus tard, dans la même salle, le ministre recevait le chancelier de la haute école, en toge bleue, et le maître Sornard. Peu de hauts citoyens connaissaient son visage couturé de cicatrices. Les frères sombres se montraient peu en public, passaient le plus clair de leur temps entre eux, et ne frayaient en général qu'avec les puissants. Le chancelier ne put réprimer tout à fait l'horreur que lui inspirait le maître des ombres, dans sa toge noire, qui paraissait découpée dans les ténèbres de son âme. Le ministre du pouvoir, encore plus distant que de coutume, les invita à s'asseoir. Le chancelier admira les ondulations chatoyantes du grand serpent ornemental qui traversait la salle, puis décida de prendre la parole. « Je devine qu'un de vos membres a formulé le souhait d'entrer chez les frères sombres, » dit-il posément. « En effet, » dit le ministre, « et avant d'examiner sa candidature, j'aimerais que le maître Sornard nous dise s'il a ou non besoin d'une nouvelle recrue. » Le maître Sornard éclata d'un rire sombre, à la fois amer et méprisant. « Les questions quantitatives ne m'intéressent pas, » dit-il. « De qui s'agit-il, s'enquit le chancelier ?»« Du propre frère d'Elénor, Joris. » Le chancelier eut un air appréciatif. « Beaucoup d'application et de volonté, sens élevé de la hiérarchie et de l'obéissance, caractère ambitieux et taciturne, avec les défauts de ses qualités, naturellement. » Peu d'autonomie de réflexion, peu d'inventivité. Je lui avais suggéré la guilde de l'ordre. Le maître Sornard ne parut pas relever cet exposé, qu'il jugeait peut-être futile. « Pourquoi veut-il devenir assassin ? » demanda-t-il abruptement. Le ministre tout sauta à cette évocation indélicate. « Pour une question d'honneur, à ce qu'il semblerait. » « Pour racheter la faute de sa sœur, » murmura le chancelier, « ça ne manque pas de panache. » Sornard leva un sourcil sarcastique. « Je me contrefiche du panache, chancelier. Je ne dirige pas une troupe de théâtre. »« Messieurs, » dit calmement le ministre, « je vous propose de recevoir Joris. Si son entretien s'avère suffisamment convaincant, nous laisserons maître Sornard disposer des modalités de prise à l'essai. » Sornard fit quelques pas dans la salle. « Un entretien ne suffit pas pour le prendre à l'essai, » conclut-il sèchement. « Quelque chaude recommandation que puisse me donner le chancelier. » ajouta-t-il avec un sourire ironique. « Que désirez-vous faire ?» demanda le ministre. « Un examen pratique, » dit-il laconiquement. « Je ne veux pas d'un homme associant la violence à une volupté malsaine. Je ne veux pas non plus d'un homme dont la compassion excessive serait un fardeau. J'ai besoin de l'observer pendant qu'il tue quelqu'un. »« Vous n'y pensez pas, » dit le chancelier. « Effectivement, » reprit Sornard. « Je n'y pense pas, je l'exige. »« Et si le test est positif ?» demanda le ministre. « Je m'engage à le former et lui à me servir. »« À servir la cité, » corrigea le chancelier. Sornard le toisa. « Apprenez, monsieur le maître d'école, que j'emploie rarement un mot pour un autre. Moi, je sers la cité, mais les autres frères, eux, ne servent que moi. » Le ministre se leva à son tour, comme pour faire cesser cette altercation qui paraissait l'ennuyer. « Chancelier, allez chercher Joris, je vous prie. » Le chancelier s'exécuta, non sans un regard pour la maquette. « Superbe, » dit-il en passant, « un cadeau des géographes de ma guilde, si je ne m'abuse. »« En effet, » dit le ministre, « une réalisation brillante. » Sornard paraissait ronger son frein devant ces échanges mondains, mais le chancelier prit tout son temps pour s'extasier et pour traverser la salle. Joris attendait au dehors, très pâle, sans aucun signe pourtant de nervosité ou d'impatience. « Vous pouvez entrer, Joris, » lui dit le chancelier. Il laissa entrer le jeune homme et tenta d'imaginer son saisissement à la vue du maître sombre. Sa pierre frontale en forme de triangle allongeait encore son visage décharné, dans lequel ses yeux petits et perçants flamboyaient d'une flamme dérangeante. Sornar dévisageait Joris sans la moindre retenue. Ce dernier, manifestement impressionné, se cantonnait à une attitude humble et silencieuse. Le chancelier se demanda ce que le maître Sornar, si laid, pouvait ressentir devant ce jeune homme à la plastique parfaite. Mais le visage de Sornar était aussi froid et impassible que la gueule du serpent, qui s'était levé contre la maquette et qui clignait de ses yeux dorés. « Joris, fit le ministre, je ne vous présente pas monsieur le chancelier de la haute école, dont vous gardez, je l'espère, un bon souvenir. Je vous présente en revanche le maître Sornar de la guilde de l'ombre. » Joris fit un salut protocolaire aux deux dignitaires, sans distinction de respect. « Nous allons vous poser quelques questions, » fit affablement le chancelier. « Parlez-nous un peu de votre décision d'entrer dans la guilde de l'ombre. » Joris leva les yeux vers les trois hommes et s'efforça maladroitement de les regarder tour à tour. « J'ai pris conscience à la trahison de ma sœur que nous étions en lutte contre tous ceux qui bafouent notre ordre et qui le sapent de l'intérieur. » Cette prise de conscience m'a amené au désir de me battre contre les ennemis de la cité. Je souhaite y consacrer ma vie. Quelle image vous faites-vous de la guilde de l'ombre ? Demanda le ministre. Joris leva les yeux sur Sornar et parut hésiter. Puis il se lança. L'image d'une confrérie de guerriers puissants et impitoyables qui ne recherchent pas la gloire, mais la satisfaction du devoir accompli. Je sais que les frères sombres mènent une vie ascétique et renoncent presque totalement à la vie publique. Je sais, ajouta-t-il après une pause, qu'ils usent de violence. Il y eut un silence pendant lequel tout le monde attendit que le maître Sornar prît la parole. « Où s'arrête ta loyauté ? » finit-il par demander à Joris d'un ton agressif. « Je suis prêt à mourir et à tuer. »« Ça ne suffit pas, » fit Sornar d'un ton dédaigneux. « À torturer s'il le faut. » À me couper des liens du sang. Que ressens-tu envers ta sœur ? Le sentiment qu'éprouve un homme en guerre à l'égard d'un ennemi. Joris baissait les yeux, mais ses joues s'étaient teintées de rouge. Le chancelier suivait l'échange avec une sorte de fascination. Ce Joris qu'il avait toujours méprisé avait finalement quelque chose d'exceptionnel. Sa loyauté, peut-être, sa loyauté fanatique. Et quels sont vos défauts ? Demanda le ministre sur un ton beaucoup plus neutre. « Je ne suis pas très doué pour utiliser l'esprit, » dit-il en jetant un œil plein d'appréhension au chancelier. « Mes techniques de formation sont beaucoup plus efficaces que celles des savants, » dit Sornar. « Tes aptitudes au verbiage ne m'intéressent pas. » Puis le maître se tourna vers le ministre. « J'accepte de lui faire passer l'examen pratique, » dit-il très calmement. Le ministre regarda le chancelier comme pour le prier de se taire. « Faites !» Je ne vous accompagne pas. Je vous tiendrai au courant dans la soirée. » Le ministre hocha la tête et salua silencieusement Joris. Puis le maître Sornar, emportant le jeune homme à sa suite, s'éclipsa et l'attention retomba perceptiblement quand la porte se fut fermée sur eux. « Comment se porte votre épouse ? » demanda le chancelier. « Plutôt mieux, je vous remercie. » « Pensez-vous que Joris agréera au maître Sornar ? » ?»« Oui, » dit laconiquement le ministre. « Sinistre personnage !» persifla le chancelier d'un ton badin. « Peut-être, selon certains critères, » dit prudemment le ministre, « mais les services qu'il rend à la cité sont innombrables. »« Je n'en doute pas, cher ami, je n'en doute pas, mais je préfère en ignorer tout. Voyez-vous, c'est cela le génie de la cité d'Albâtre, avoir recours à des hommes tels que Sornar, tout en permettant aux hommes tels que moi de ne jamais y penser. »